Chapitre 2. L'honorable Timothée Semyonitch me reçut avec un certain empressement, mais non sans quelque trouble. Il m'emmena dans son cabinet de travail, dont il ferma soigneusement la porte, afin, dit-il, que les enfants ne nous dérangent pas. Et ce disant, il semblait assez inquiet. Il me fit asseoir sur une chaise près de son bureau, se mit lui-même en un fauteuil, ramena les pans de sa robe de chambre ouatée et qui montrait la corde, et prit un air sévère, je dirais même officiel, encore qu'il ne fût point mon chef, ni celui d'Ivan Matveïtch, mais tout simplement notre camarade. Avant tout, fit-il tout d'abord, remarquez que je ne suis pas votre chef, mais un subordonné, comme vous-même et Ivan Matveïtch. Tout cela ne me regarde pas, je ne veux me mêler de rien. Je fus stupéfait. Évidemment, il savait déjà toute l'histoire. Cependant, je lui en fis le récit détaillé. Je m'exprimais d'un ton ému, car j'accomplissais là mon sacerdoce d'ami véritable. Il m'écouta sans étonnement, mais avec des signes manifestes de méfiance. « Croiriez-vous, me dit-il quand j'eus fini de parler, « croiriez-vous que j'avais toujours prévu qu'un pareil accident arriverait à Ivan Matveïtch ?»« Comment cela, Timothée Semyonitch ? Il me semble pourtant que le cas est fort extraordinaire. »« D'accord, mais qu'est-ce que toute la carrière d'Ivan Matveïtch ne tendait pas vers tel résultat ?»« Il était d'une hardiesse qui frisait l'insolence. »« Il n'avait que le progrès à la bouche ainsi qu'un tas d'idées. » Voilà où ça nous mène, le progrès. Mais il me semble que cet accident tout à fait fortuit ne saurait être érigé en règle générale pour tous les progressistes. Oh, que vous le vouliez ou non, c'est ainsi. Croyez-moi, tout cela n'est que la conséquence d'une instruction exagérée. Les gens qui en savent trop se fourrent partout, même on ne les demande pas. Au surplus, ajouta-t-il comme offensé. J'aimerais que vous soyez bien renseigné que moi là-dessus. Oh, je ne suis pas aussi instruit que cela, moi, je suis vieux. C'est comme fils de soldat que j'entrais au service il y a de cela 50 ans. Mais vous vous méprenez, Timothée Semyonitch. Tout au contraire, Ivan Matveïtch vous demande vos conseils et votre protection avec des larmes dans les yeux, si je puis dire. Mais avec des larmes dans les yeux. Ce sont des larmes de crocodile. Il ne faut pas trop ajouter foi. Mais quel besoin avait-il d'aller à l'étranger? Avec quel argent? Il n'y a même pas les moyens. Mais il a fait des économies, Timothée Semyonitch, répondis-je d'un ton plaintif. Il avait mis sa dernière gratification de côté. Il ne s'en allait que pour 3 mois, pour visiter la Suisse, la patrie de Guillaume Tell. De Guillaume Tell, Oui, il voulait jouer du printemps à Naples, visiter les musées, voir les mœurs, les animaux. Les animaux? Oh, à mon avis, il n'entreprenait ce voyage que par pur orgueil. Mes animaux, mais quels animaux? Est-ce qu'il n'y en a pas assez chez nous? Nous avons des musées, des ménageries, des chameaux. Les ours habitent à 2 pas de Saint-Pétersbourg et lui-même est actuellement domicilié dans un crocodile. Non, Timothée Semyonitch, par pitié. Cet homme est dans le malheur. Il vient à vous comme un ami, comme un parent plus âgé. Il demande un conseil et vous lui faites des reproches. Ayez au moins pitié d'Elena Ivanovna. Oh, c'est de sa femme que vous parlez. Oh, c'est une femme charmante. Fit Timothée Semyonitch, qui se radoucit sensiblement et huma une prise de tabac. Une personne très fine, avec la tête qui penche sur l'épaule et de l'embonpoint. Elle est fort agréable. André Osipitch en parlait encore avant-hier. Il en parlait? Oui, en termes très élogieux. Quelle poitrine, disait-il, et quel regard! Et ses cheveux, oh, une vraie friandise, cette dame. Il a même ri. Ils sont encore jeunes. Et voilà donc comment ce monsieur fait sa carrière. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit, Timothée Semyonitch. Évidemment, évidemment. Alors que faire, Timothée Semyonitch? Qui puis-je? Mais accordez-nous vos conseils. Dirigez-nous en homme d'expérience que vous êtes, comme un parent. De quel côté nous tourner? Faut-il aller prévenir les chefs ou... Prévenir les chefs? Oh, d'aucune façon, s'écria vivement Timothée Semyonitch. Ben, puisque vous me demandez un conseil, étouffez cette affaire et n'agissez que de façon strictement privée. Le cas est très particulier et de nature assez douteuse. L'occurrence se présente pour la première fois et ne peut que mal recommander le factionnaire en cause. C'est pourquoi il importe avant tout d'agir avec prudence, qu'il ne bouge pas. Il faut attendre, attendre. Attendre, mais comment, Timothée Semyonitch, et s'il étouffe là-dedans? Et pourquoi donc ne venez-vous pas de me dire qu'il s'y était installé fort confortablement? Je recommençai mon récit. Timothée Semyonitch réfléchit longuement. Puis tournant sa tabatière entre ses doigts, il fit « Hélas, il me semble qu'il faudrait bien de rester là où il se trouve, plutôt que de s'en aller à l'étranger. Il a le loisir de méditer. Bien sûr qu'il ne faut pas le laisser étouffer et qu'on doit prendre des mesures pour la sauvegarde de sa santé. » Par exemple, bon, qu'il veuille à ne pas s'enrhumer. Pour ce qui est de l'allemand, il me paraît qu'il est dans son droit, et même plus que la patrie à partie adverse. On est entré sans permission dans son crocodile, et ce n'est pas lui qui est entré dans le crocodile d'Ivan Matéitch, lequel du reste n'en possède pas, si je ne me trompe. Or, ce crocodile constitue une propriété, et par conséquent, on ne peut lui ouvrir le ventre sans indemniser le propriétaire. Mais il s'agit de sauver un être humain, Timothée Semyonitch. Oh, ça, c'est l'affaire de la police. C'est à elle qu'il faut s'adresser. Mais il se peut qu'on ait besoin de lui au bureau et qu'on le demande. Besoin d'Ivan Matveïtch? D'abord, il est considéré comme en congé. Il est supposé en train de visiter l'Europe et nous pouvons ignorer ce qu'il fait en réalité. Le cas sera différent s'il ne réintègre pas son poste en temps voulu. Alors, nous constaterons officiellement son absence et nous ouvrirons une enquête. Mais dans 3 mois, ayez pitié. Bon, s'il est dans un mauvais pas, c'est par sa faute. Mais qui l'a poussé là? On devra peut-être lui attribuer un gardien aux frais de l'État, ce qui est contraire au règlement. Mais ce qu'il faut considérer d'abord, c'est que le crocodile est une propriété et que par conséquent, le principe économique est en jeu. Le principe économique prive tout. Avant-hier, chez Lucas Andreïtch, Ignati Prokovitch en parlait. Connaissez-vous Ignati Prokovitch? C'est un gros capitaliste qui brasse de grandes affaires et qui s'exprime fort bien. Il nous faut une industrie, disait-il. Notre industrie n'existe pour ainsi dire pas. Il faut donc la créer et dans ce but créer une bourgeoisie. Et comme nous n'avons pas de capitaux, il est nécessaire de les faire venir de l'étranger. Nous devons donc premièrement donner aux compagnies étrangères la possibilité d'acheter nos terres par parcelles, ainsi qu'ils se pratiquent partout à l'étranger. Cette propriété en commun, mais c'est le poison, la perte de la Russie. Et il parlait avec un grand enthousiasme. C'est commode pour ces gens-là qui sont riches et ne sont pas au service. Il dit que ni l'industrie ni l'agriculture ne peuvent prospérer avec cette communauté. Il voulait que les compagnies achetassent tout notre territoire par lot, afin de le diviser ensuite en lopins très petits, qu'on vendrait ensuite de façon à les constituer en propriétés individuelles. Et vous savez, c'était d'un ton fort résolu qu'il disait « partager ». Si l'on ne vendait pas, on pouvait louer tout simplement. Et il ajoutait « Quand toute autre terre sera entre les mains de sociétés étrangères, il sera facile de fixer le prix de fermage qu'on voudra. Ainsi le paysan devra travailler pour gagner son pain et on pourra le chasser de tel ou tel territoire en cas de besoin. Comme il sentira ce danger, il se montrera respectueux et obéissant et produira trois fois plus de travail qu'il en produit à l'heure actuelle, où il fait partie de la communauté et peut se moquer de tout. Il sait qu'il ne mourra pas de faim et alors il fait le paresseux et s'enivre. Avec la nouvelle méthode, l'argent nous viendra. La bourgeoisie abordera ses capitaux. D'ailleurs, le Times, le grand journal littéraire et politique de Londres, dans une étude qu'il publiait sur nos journaux, déclarait que si nos capitaux n'augmentaient pas, c'est que nous n'avons pas de tiers état, que nous manquons de grosses fortunes et d'un prolétariat producteur. Oh bien, Ignati Prokovitch parle fort bien. C'est un véritable orateur. Il a l'intention de présenter un mémoire en haut lieu, un mémoire qu'il publiera ensuite dans le Messager. Nous sommes loin des rêveries d'Ivan Matveïtch. Eh bien, qu'allons-nous faire pour Ivan Matveïtch ? Interrompis-je. J'avais laissé bavarder le vieillard, sachant que c'était un de ses travers, et qu'il ne lui déplaisait pas de montrer qu'il n'était pas aussi en retard que cela, et qu'il se tenait au courant de tout. Que faire pour Ivan Matveïtch ? Tout ce que je viens de dire se rapporte à lui. Nous faisons tous nos efforts pour amener chez nous les capitaux étrangers. Et à peine la fortune du propriétaire de crocodile s'est-elle doublée du fait d'Ivan Matveïtch que nous prétendons crever le ventre de sa bête. Voyons, est-ce que ça a le sens commun ? À mon avis, en vrai fils de la patrie, Ivan Matveïtch doit se réjouir, s'enorgueillir d'avoir pu doubler la valeur d'un crocodile étranger rien que par son intervention. Que dis-je, doubler, tripler ? Ce bon train de crocodile ayant réussi, il en viendra un autre avec un autre crocodile, puis un troisième surviendra, qui amènera deux ou trois bêtes, alors. Et autour de les capitaux se grouperont, et voilà le commencement d'une bourgeoisie. On saurait assez encourager ce mouvement. Mais, exclamai-je, Timothée Semyonitch, c'est une abnégation presque surhumaine que vous exigez de ce pauvre Ivan Matveïtch. Oh, je n'exige rien, et je vous prie de vous rappeler que je ne suis pas un chef comme je vous en ai prévenu, et que par conséquent je n'ai rien à exiger. Non, je parle en fils de la patrie, non pas en fils de la patrie, mais tout simplement en fils de la patrie. Je vous le demande encore, qui donc lui a ordonné d'aller se fourrer dans ce crocodile ? Un homme sérieux, titulaire d'un certain grade, marié légitimement, qui va tout à coup se fourvoyer d'une pareille aventure. Mais à quoi ça ressemble-t-il ? Mais la circonstance est tout à fait indépendante de sa volonté. Oh, qui sait ? Et puis, avec quel argent indemniser le propriétaire du crocodile ? Eh bien, mais les appointements d'Ivan Matveïtch, y suffirait-il ? Hélas non, Timothée Semyonitch, fis-je avec tristesse. Au début de l'affaire, le montreur de crocodile craignait de voir éclater sa bête, mais quand il se vit assuré que tout allait bien, il devint arrogant, et c'est avec une sorte de volupté qu'il doubla le prix demandé tout d'abord. Mais dire qu'il pourra le tripler, le quadrupler, le public va affluer. Et ces montreurs de crocodiles sont vraiment fort habiles. Et depuis nous sommes en carnaval, tout le monde veut s'amuser, et c'est même la raison pour laquelle Ivan Matveïtch doit conserver l'incognito, ne pas se presser. Que tout le monde sache qu'il se gîte en un crocodile, mais pas officiellement. Et il se trouve pour cela dans les plus favorables conditions, puisqu'il est censé partir pour l'étranger. On peut dire qu'il est dans un crocodile, nous n'en savons rien. Tout cela peut s'arranger. Le principal est qu'il attende. Du reste, est-il donc si pressé? Mais si... Oh, soyez tranquille, il a d'une assez forte corpulence. Eh bien, mais quand il aura attendu... Ah, là, je ne vous le cacherai pas, le cas est très épineux. On se perd là-dedans, et le pire, c'est qu'il n'y a pas de précédent. S'il existait un précédent, nous pourrions encore nous débrouiller. Mais ici, sur quoi se baser? Pendant que nous chercherons une solution, l'affaire traînera. J'eus une inspiration. Ne pourrait-on faire en sorte que, s'il doit rester dans le ventre du crocodile, et que la grâce de Dieu lui conserve la vie sauve, il puisse adresser à qui de droit une demande afin d'être considéré comme étant néanmoins au service. Hein? Comment en congé sans apprêtement? Mais n'y aurait-il pas moyen de lui conserver ses appointements? À quel titre? À titre d'employé en mission. En mission, mais où ça? Mais dans les profondeurs du crocodile, dans ses profondeurs pour y recueillir des renseignements, pour étudier les faits sur place. Oh, évidemment, ce serait une innovation, mais aussi un progrès, une preuve que l'État se préoccupe de l'avancement de la science. Timothée Semyonitch s'absorba dans une profonde méditation. Enfin, il répondit. « Il me semble que le fait d'envoyer un employé en mission dans le ventre d'un crocodile constituerait une absurdité. Cela ne saurait s'accorder avec le tableau de service. Quelle mission pourrait-on accomplir là-dedans ? Mais une mission d'étude naturelle, si je puis m'exprimer ainsi. Il s'agirait de surprendre la nature sur le vif. Les sciences naturelles, la botanique, sont fortes à la mode actuellement. Il serait en résidence dans le crocodile et nous enverrait des communications sur la digestion des sauriens, par exemple, sur les mœurs internes de ces animaux, quoi. Il pourrait ainsi réunir des faisceaux de faits. Des études statistiques, sans doute. Moi, je suis guère ferré sur ces questions, et puis je ne suis pas philosophe. Vous parlez de fait, mais nous en sommes encombrés de fait. Nous savons plus qu'en faire. De plus, cette statistique me paraît dangereuse. En quoi? Elle est dangereuse. Et puis, convenez-en, il va nous établir ses rapports couché sur le côté. Est-ce couché sur le côté que l'on peut faire son service? C'est encore une innovation tout aussi dangereuse. Il n'y a pas de précédent. Oh, si nous avions un précédent, ça irait tout seul. Mais comment pourrions-nous avoir un précédent quand c'est le premier crocodile vivant que l'on amène à Pétersbourg, Timothée Semyonitch? C'est vrai, oui. Il réfléchit de nouveau. Dans un sens, votre observation est juste et pourrait fournir une base pour la suite de l'affaire. Mais considérez d'autre part que si l'apparition de ces crocodiles vivants doit entraîner pour les employés un penchant à s'y retirer, et sous prétexte qu'il y fait bon, à y demander des missions afin d'y passer leur temps couché sur le côté, ce sera d'un assez mauvais exemple, convenez-en. Tout le monde ira se cacher dans les crocodiles pour gagner de l'argent à ne rien faire. Faites tout votre possible, Timothée Semyonitch. À propos, Ivan Matveïtch m'a prié de vous payer 7 roubles qu'il vous doit, une dette de jeu. Ah oui, il l'a perdu l'autre jour chez Nikiforitch, m'en souviens. Oh, qu'il était gai ce soir-là et qu'il nous fit donc bien rire. Et maintenant... Le vieillard était sincèrement ému. Permettez-moi de vous en occuper, Timothée Semyonitch. Bon, je m'en occuperai. Je parlerai à mon nom. Je m'y prendrai à ma façon. J'aurai l'air de demander un renseignement. À ce propos, informez-vous donc du prix que demanderait le propriétaire du crocodile. Timothée Semyonitch s'adoucissait sensiblement. Je n'y manquerai point, répondis-je. Je viendrai tout aussitôt vous rendre compte de ce qu'on m'aura dit. Et sa jeune femme, la voici donc seule. Elle s'ennuie. Vous pourriez lui rendre visite, Timothée Semyonitch. Pourquoi pas? J'y avais déjà pensé, et l'occasion me paraît bonne. Mais quelle idée d'aller voir ce crocodile! D'ailleurs, je me propose d'y aller aussi. Allez-y donc, Timothée Semyonitch. J'irai, cependant, je n'entends pas qu'Ivan Malvievitch conçoive aucun espoir de cette démarche. Je ne la fais qu'en tant que particulier. Ah, alors, au revoir. Je me rends chez Nikita Nikivitch, puis vous y serez. Non, je vais visiter notre prisonnier. Oui, prisonnier, la légèreté. Je pris congé du vieillard. 1000 pensées me trottaient par la tête. Timothée Semyonitch est un bien brave homme, mais ça n'empêche pas qu'en le quittant, je me réjouissais qu'on eût déjà fêté son 50e anniversaire et que les Timothée Semyonitch ne fussent pas trop nombreux parmi nous. Il va de soi que je courus au passage afin de porter des nouvelles au pauvre Ivan Matveïevitch. De plus, j'étais curieux de savoir comment il s'était installé dans ce crocodile et si la vie y était supportable. Vivre dans un crocodile, oh, par instant, il me semblait être le jouet d'un rêve monstrueux. Hélas, c'était bien d'un monstre qu'il s'agissait.